France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Il y a quelques jours disparaissait Jean-Claude Risset, pionnier de l'informatique musicale, qui avait été aux côtés de Pierre Boulez à la création de l'IRCA. Mais Jean-Claude Risset, c'était aussi une œuvre de plus de 70 opus, dont ce célèbre Little Boy, œuvre marquante réalisée en 1968 au laboratoire Bell, et dont tous les sons furent produits par ordinateur. En 2001, nous le recevions dans Tapage nocturne, il nous parlait de l'illusion sonore. Jean-Claude Risset, on vous reçoit dans ce Tapage nocturne pour parler un petit peu de votre carrière qui est très très étonnante, le travail que vous avez mené à la fois dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'écrit. Vous avez commencé par finalement de la musique instrumentale traditionnelle, entre guillemets.
Oui, et même de la musique pour orchestre. En 63, j'avais fait une œuvre pour orchestre qui a été diffusée à la radio. Je me suis toujours intéressé au timbre. J'étais frappé à ce moment-là par à la fois la splendeur de l'orchestre, mais aussi les contraintes extraordinaires. Et puis tout ce que ça évoque, je veux dire que c'est tellement connoté. J'avais envie à la fois de pouvoir faire des timbres nouveaux et des timbres qui soient un peu libres de tout ce passé. Et j'avais connu, d'ailleurs, je m'étais intéressé à ce que faisait Schaeffer et son groupe à l'époque, et ça ne m'avait pas tenté parce que justement je trouvais qu'il manquait ce raffinement instrumental. La musique électronique me paraissait d'une pauvreté sonore insigne et j'étais pas complètement formaliste comme l'étaient les sériels. Mais j'ai eu la chance d'entendre parler de la synthèse par ordinateur qui, au début des années 60, était absolument inconnue et n'existait qu'aux États-Unis.
C'est la raison pour laquelle vous êtes parti aux États-Unis.
Voilà, alors je suis allé au laboratoire Bell où ils recherchaient pour explorer ces nouvelles possibilités quelqu'un qui avait à la fois une formation scientifique et musicale. J'ai étudié avec Jolivet et j'ai fait plusieurs pièces et donc j'ai eu l'occasion, donc la chance de venir là-bas pour explorer les possibilités de ces nouveaux matériaux sonores qu'est la synthèse par ordinateur où en somme on est devant la page blanche, il n'y a pas de contraintes, on peut faire théoriquement ce qu'on veut, en tout cas il n'y a pas de limitation acoustique ou autre.
Que cherchait le laboratoire finalement? Bell, peut-être resitué.
Oui, Graham Bell a inventé le téléphone et pendant très longtemps le Bell System a eu le monopole du téléphone. Mais Graham Bell était d'ailleurs quelqu'un d'extraordinaire qui aimait aller hors des sentiers battus. Et les laboratoires Bell, quand ils avaient cette espèce de monopole, ils se sont payés le luxe de très grands laboratoires. C'était les plus grands laboratoires du monde, on peut dire, plus grande concentration de docteurs et sciences. Ils faisaient une recherche qui n'était pas étroitement appliquée, mais qui visait le long terme, la communication dans tous ses aspects. C'est quand même là qu'a été inventé le transistor, et dans une recherche à long terme, pas appliquée, la théorie de l'information, c'est là qu'a été découvert le bruit de fond du Big Bang, les piles solaires, etc. Et il y avait une extraordinaire rencontre de personnages de différents. Par exemple, dans le laboratoire où j'étais, il y avait des psychologues, des mathématiciens, des informaticiens. Le mot n'existait pas, d'ailleurs, à l'époque.
Et vous alors, les appelez comment ?
On disait les calculatrices, puis on a dit les calculateurs et ordinateurs. Mot propriété d'IBM est devenu la norme vers la fin des années 60. Et informatique a été inventé aussi par un Français. D'ailleurs, les Anglais n'ont pas ce mot-là. Ils commencent à dire informatics. Mais enfin, c'est parce que computer science, c'est pas tout à fait la même chose. Et alors, donc, il y avait Max Matthews, qui était un personnage extraordinaire, et John Pierce. John Pierce a inventé les satellites de télécommunication bien avant qu'on sache lancer des satellites. Et ces deux personnages ont eu l'idée, un jour, en écoutant un concert récital de piano, de se dire, mais dans le fond, on peut faire des sons avec les ordinateurs. Et ils l'ont fait, les premiers, des 57, et ils ont mis au point cette technique qui est maintenant utilisée dans les disques compacts, les disques laser. Mais à l'époque, le laser non plus n'avait pas été inventé. C'était commercialement inexploitable à l'époque, mais ils avaient déjà eu l'idée qu'on peut non seulement enregistrer le son, mais fabriquer, synthétiser, calculer le son en utilisant un ordinateur. Et donc, il n'y a pas de contrainte parce que la programmation permet des tas de choses et on peut, pour ainsi dire, donc littéralement composer le son, le sculpter, le dessiner. C'est comme si on gravait directement le sillon du disque, mais évidemment en se faisant aider par des programmes qui vous évitent d'avoir à dessiner toutes les petites vallées et pics qui sont tellement importants pour ce qu'on entend.
Le laboratoire était à New York ?
Il était près de New York, dans le New Jersey, et c'est un très grand laboratoire donc, et qui est tout à fait scientifique et technique, mais il y avait d'abord cette ouverture disciplinaire, et puis d'autre part, certains, tout le monde n'était pas de cet avis, mais Max Matthews et d'autres ont insisté pour qu'il y ait des artistes qui viennent, à la fois pour faire bénéficier les artistes des dernières technologies, et aussi parce que les artistes ont des idées. Tout d'un coup, des raccourcis saisissants, par exemple dans le domaine visuel, comment utiliser, je sais pas moi, ce nouveau matériau qui est très beau, et tout d'un coup, un artiste arrive à une idée fulgurante pour en faire un objet magnifique ou même une utilisation pratique. Donc, dans les deux sens, il peut y avoir un intérêt à ce que ces recherches ne restent pas l'apanage du monde technico-scientifique, mais qui débouche sur la société en général et sur l'art en particulier. Absolument, les premières œuvres que j'ai faites par ordinateur étaient là-bas, Little Boy qui était sur la bombe d'Hiroshima et pour lequel j'ai développé, c'est une pièce de Pierre Allais, le principal personnage, imaginer la chute de la bombe et s'identifier à la bombe, si bien que pour illustrer cette espèce de chute mentale, j'ai développé des glissandi qui descendent indéfiniment. Puis Mutation était commandée par le groupe de recherche musicale qui s'intéressait à ce nouveau moyen, puisque il y avait la musique concrète et la musique électronique avec des sources soit acoustiques, soit électroniques. Mais ça, c'était un nouveau moyen qui est en fait électronique, puisque quand on fait de la synthèse, donc l'origine n'est pas des sons acoustiques, mais tellement nouveau dans la manière dont on peut le contrôler que finalement c'était un troisième chapitre, on peut dire, des musiques expérimentales. GRM s'est intéressé et m'a commandé une œuvre à ce moment-là qui s'appelle Mutation. Et puis, ça, c'était des années avant l'IRCAM, évidemment. C'est-à-dire que l'IRCAM est parti en 1975, moi j'ai commencé justement, à partir de nombreux développements qui ont été faits sur l'ordinateur dans les années 60 et auxquels j'ai participé.
L'œuvre que vous avez citée, Computer Suite for Little Boy, c'est une œuvre de 1968.
Voilà.
Vous êtes resté...
Entièrement synthétisée par ordinateur. C'est une des premières œuvres importantes qui est entièrement synthétisée par ordinateur.
Vous êtes resté combien de temps ?
Je suis resté, disons, de 64 à 69 avec un intervalle enfin, survenu pour mon service militaire, malgré l'intervention de Varese, d'ailleurs, qui a essayé de me faire avoir un sursis, mais c'était pas possible, quoi. Parce que Varese s'intéressait et suivait ses recherches avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il avait conscience que lui, il recherchait toujours les matériaux nouveaux. Et il a utilisé dans ses dernières œuvres la musique électroacoustique, mais il trouvait pas que, comme il disait, les instruments pouvaient obéir suffisamment à la pensée. Il a dit ça dans les années 1917, je crois. Et donc, tout d'un coup, il voyait avec l'informatique la possibilité de les conformer d'une manière extrêmement fine et musicale, mais en même temps, était exigeant pour le son et détestait les sons électroniques morts qu'il faisait penser à des embaumeurs, enfin, qu'il trouvait mortifères.
Varese a travaillé avec le laboratoire Bell ?
Tout à fait. Varese, et il devait venir, d'ailleurs, l'automne de 65, et malheureusement, il est mort d'une opération, mais il est plusieurs fois venu, donc, au laboratoire Bell, et il devait venir travailler, mais il lui fallait un assistant, ce qui était un peu difficile à trouver dans le cadre de ce laboratoire, qui était quand même pas un laboratoire de création musicale, c'était vraiment un peu en perruque, mais c'est là qu'ont été développés vraiment les débuts de la musique informatique complètement.
Ce laboratoire a fermé ses portes ?
Pas tout à fait, il existe toujours, mais il y a eu le procès de monopole de Bell, qui, si bien que Bell a dû se scinder, comme j'espère Microsoft, mais enfin en l'occurrence c'était beaucoup moins bénéfique, parce qu'il s'est trouvé que les laboratoires Bell ont été démantelés. Il n'y avait plus la possibilité de maintenir ces superbes laboratoires de recherche. Ils sont devenus beaucoup plus appliqués. Ils s'appellent maintenant Lucent Technologies. Mais ils font des choses beaucoup plus en vue de vendre et donc avec beaucoup moins de liberté de penser des applications à long terme. Par exemple, le transistor n'aurait pas été inventé si on l'avait cherché, si je puis dire. Il y avait des gens qui cherchaient des procédés nouveaux d'électronique, mais c'est dans le cadre d'une recherche à long terme, une recherche fondamentale sur l'effet solide que cette découverte a été faite. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça, ce qui faisait qu'il y avait une largeur de vue qui n'existe plus maintenant ce qui prolonge les laboratoires Bell.
Vous rentrez en France en 69, et là vous vous approchez des studios de création qui existaient à Paris.
Voilà, alors donc le GRM, j'étais déjà en contact avec eux, puisqu'ils m'avaient commandé cette œuvre-là, Mutation. Je me suis aussi rapproché de ce qui s'appelait à l'époque l'EMAMU, qui est devenu ensuite le CEMAMU de Xenakis, qui cherchait donc à développer la synthèse avec des idées particulières chères à Xenakis. Mais en définitive, je n'ai pas pu continuer à travailler dans l'immédiat, et je suis parti à Marseille... à la fois pour diriger un département de musique, et il fallait des gens qui aient à la fois des titres universitaires, une formation musicale, et comme il n'y avait pas vraiment de musique dans les universités jusqu'à 68-69, il y avait musicologie, mais pas... Donc j'étais un peu enrôlé. Mais en même temps, là-bas, j'ai développé un dispositif de synthèse dont le premier en Europe a été à Orsay, mais enfin, je suis parti à Marseille, et donc en 14, on a eu la synthèse des sons à Marseille, et je fais aussi une pièce ou deux. Mais alors à ce moment-là, j'étais rappelé à Paris par Pierre Boulez qui créait l'IRCAM. En fait, un peu plus tôt d'ailleurs, dès 70-71, il m'avait demandé si je voulais venir. Évidemment, c'était une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. Mais donc, je m'étais quand même installé à Marseille, et je suis allé à l'IRCAM de 75 à 79. Où là, j'étais comme un des compositeurs, directeur de département. Il y avait une structure en département qui était d'ailleurs déjà périmée au départ, puisqu'il y avait un département électronique qui était distinct du département ordinateur. Or, toute la musique électronique devenait à cette époque-là numérique. Et elle l'est maintenant à peu près complètement, même au GRM.
Vous avez donc travaillé sur le projet 4X ?
Non. Justement, le projet 4X a été développé dans le département électronique de Luciano Berio, qui cherchait une solution à un studio électronique. Et au départ, il imaginait, bon, comme une sculpture, c'est-à-dire beaucoup d'oscillateurs, et on élimine ce qu'on ne veut pas, de même que dans une sculpture, on élimine ce qu'il y a autour de la pierre. Et finalement, Berio a cherché un certain temps, et en définitive, il a trouvé un Peppino Di Genio, qui était un brillant électronicien, qui a appris la technique du numérique, d'ailleurs, au Bell Labs, avec Max Matthews et d'autres chercheurs, et qui a fait la machine 4X. Mais c'était dans un département différent. Et moi, je dois dire que j'étais, à l'époque, je suis toujours d'ailleurs extrêmement sceptique, vis-à-vis d'une technologie extraordinairement avancée, dans la mesure où elle se périme extrêmement vite. Et donc, il y a bien des œuvres qui ont été composées pour la machine 4X qui ne peuvent plus être jouées parce que la machine 4X ne fonctionne plus. Elle a été remplacée par d'autres machines, mais qui sont différentes. Et il a fallu travailler énormément pour que des pièces, une pièce comme Réponse en particulier, qui a été d'abord mise en œuvre sur la 4X, soit adaptée sur les nouveaux matériels. Mais il y a une somme considérable de travail qui a été faite rien que pour la faire survivre. Et donc, malheureusement, il y a des œuvres qui n'ont pas pu recevoir la même attention et qui n'existent plus, enfin qui n'existent plus que sous forme d'enregistrement. Et moi, je dois dire que j'ai toujours été extrêmement sceptique vis-à-vis de ces dispositifs de pointe qui se périment très vite parce que la technologie se périme très vite. Et donc, moi, j'ai réalisé la plupart de mes œuvres sur support, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention en temps réel parce que le support, on sait bien que l'enregistrement sera toujours assuré par une technologie puis par la suivante. Mais en revanche, les machines comme la 4X, par exemple, il y a de nouvelles machines comme les... Et maintenant, d'ailleurs, on tend de plus en plus à utiliser les ordinateurs d'usage général. Donc, la programmation, c'est plus facile de porter les programmes. C'est pas automatique. Mais avant, c'était un travail énorme de refaire marcher une pièce qui avait été mise en œuvre sur un système, sur un autre système. Il y a, pour le GRM, il y a la machine Citer qui est un peu similaire. Et effectivement, il y a plus qu'une ou deux machines Citer. Et donc, les pièces qui utilisent directement cette interaction sont difficiles à monter maintenant.
On voit disparaître d'ailleurs les machines dédiées de plus en plus. De plus en plus, on voit que les logiciels ont pris la place.
Tout à fait, mais c'est parce qu'aussi, évidemment, les ordinateurs sont devenus tellement rapides, et donc, mais c'est tout récent, ça. Mais moi, j'ai par exemple utilisé la machine Citer à plusieurs occasions, dans des pièces comme Voilement ou Attracteur étrange, mais pour faire une bande, et que j'ai fait d'ailleurs souvent avec le concours du GRM, où j'ai utilisé dans certaines pièces que j'ai fait au GRM, mais pour une musique, on dit maintenant sur support, on dit plus sur bande parce qu'on n'utilise plus beaucoup la bande, mais enfin c'est la même idée.
Vous n'avez pas oublié pendant tout ce temps-là la musique instrumentale, la musique
pour l'orchestre ? Non, évidemment, je me suis concentré sur cette recherche de quoi pouvait donner lieu le son de synthèse. Et il fallait le vivifier, il fallait l'animer, il fallait... Mais en même temps, la musique instrumentale m'a toujours intéressé par à la fois son rapport direct avec le corps, enfin, bon, la voix, bien entendu, qui est dans le corps, mais aussi... Et puis, tout ce trésor que vous offrent les instrumentistes. Je veux dire, les instrumentistes sont pas seulement des exécutants, ils apportent un style, des idées, un sens, une invention à leur jeu. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinairement raffiné dans le son acoustique, enfin, qui, je dois dire, même en étant convaincu des possibilités immenses du son de synthèse, mais en même temps, on peut en parler d'ailleurs presque philosophiquement, je pense que nous sommes adaptés au son acoustique beaucoup plus qu'au son électronique. Je veux dire que l'évolution des espèces, c'est pas seulement depuis la naissance, mais l'évolution des espèces a développé dans notre audition d'extraordinaires mécanismes d'une finesse incroyable pour faire des enquêtes sur les sons acoustiques. Et en face d'un, elle applique les mêmes processus en face d'un son électronique. Et par exemple, elle dit, c'est une percussion. Mais rien ne tape dans rien dans un ordinateur ou dans une machine électronique. Et donc, ces choses jouent en faux, à porte-à-faux, si on peut dire. Mais c'est les mécanismes qu'on a.
Mais vous avez réussi à tromper l'oreille.
Oui, ben, on peut la tromper, mais justement, d'une certaine manière, en se rapprochant de l'acoustique, en simulant des sons de cuivre ou des sons frottés, etc.
Je pensais surtout à ces cycles.
Ah non, mais alors par contre, on peut effectivement, en truquant, en utilisant les mécanismes de l'audition, mais d'une manière un peu perverse, en les déviant, en les détournant, eh bien à ce moment-là, par exemple, bien la gamme c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quand on entend ce cyclage du do, ça veut dire que deux do sont plus proches qu'un do et un fa dièse, par exemple. Et ça, sur les fréquences, c'est pas du tout le cas. Les fréquences, plus elles sont éloignées, plus elles sont loin, bien sûr. Par contre, la hauteur, c'est plus une spirale. Et quand vous retombez sur une octave, vous voyez, vous êtes à une spire supérieure. Enfin, ce qui indique que cette similarité prouve que la hauteur, c'est pas tout à fait la même chose que la fréquence. Et en jouant là-dessus, sur l'ambiguïté d'octave, par exemple, on peut faire, comme j'ai fait, par exemple, des cycles de sons dont l'impression de descendre indéfiniment et qui descendent la gamme. Ou bien ils peuvent aussi descendre la gamme et devenir plus aigus, parce qu'il y a deux aspects de la hauteur, l'un qui est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis l'autre qui est grave aigu. Mais do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça tourne en rond, c'est pas grave aigu. Et donc, en divorçant ces composantes qui donnent lieu à ces aspects-là, qui sont normalement liés dans les instruments, eh bien, on arrive à créer des sons qui montent et descendent à la fois, qui montent indéfiniment, qui ralentissent ou accélèrent indéfiniment, etc.
Alors, vous avez pu l'appliquer à la musique électronique, ça semble simple, entre guillemets, mais vous avez même poussé ça jusqu'à l'écriture pour l'orchestre.
Voilà, alors c'est un exercice de style que j'ai fait, mais l'orchestre, Dieu sait si je veux pas le réduire à un synthétiseur, mais c'est le plus beau des synthétiseurs, puisque tous ces instruments chacun peuvent donner lieu à une voix. Alors j'ai fait un exercice de style dans une pièce pour grand orchestre phase. Dans un des mouvements, j'ai effectivement créé ces descentes sans fin instrumentales, c'est-à-dire que les instruments, en se relayant, arrivent à donner cette sensation d'hélice ou de spirale indéfinie. Et à la fin, ils arrivent même à produire un son qui descend de deux ou trois octaves, mais qui passe du grave à l'aigu tout en descendant deux ou trois octaves. Alors, c'est un exercice de style. On peut le faire avec des chœurs aussi. Ça marche très bien. Et ça traduit finalement, c'est une curiosité. C'est difficile à en abuser parce que ça marche que dans une certaine région. Vous pouvez pas le faire trop vite ou trop lentement pour que ce soit efficace ou que ça fonctionne. Et donc, en définitive, lorsqu'on le réentend, on a l'impression un peu de retrouver un objet trouvé, quoi. Un objet qui a une forme tellement typique que finalement, ça fait déjà entendu très vite, quoi.
En dehors des œuvres mixtes, on a l'impression que la musique électronique a nourri également votre écrit musical.
Oui, moins peut-être que d'autres, parce que Ligeti, par exemple, qui est un musicien que j'aime beaucoup, mais qui s'intéresse énormément à tout ce qu'on fait avec l'ordinateur. Il a failli, d'ailleurs, avant même l'IRCAM, il a fait un programme pour avoir un grand centre à Hambourg, et finalement, ça n'a pas marché pour des raisons de politique municipale, mais enfin, ça a failli. Mais il dit toujours que l'ordinateur, pour lui, la science en général, mais aussi l'ordinateur, lui a beaucoup influencé, non pas directement, il n'a pas utilisé, mais comme une espèce de modèle. Et il est certain que des pièces comme Atmosphère ou San Francisco Polyphonie ont été influencées par l'expérience de la musique électroacoustique d'abord, et puis informatique. Il, par exemple, certaines de ses études pour piano, bah, il a repris d'ailleurs dans Vertige les techniques cycliques que j'ai mis en œuvre pour les spirales indéfinies ou... Et moi, je me suis aussi intéressé à ça, mais finalement, moins peut-être que d'autres qui ont toute la musique spectrale aussi, qui est appliquée à la composition orchestrale de spectre. Et en définitive, moi, je l'ai plutôt fait avec l'ordinateur. Mais enfin, il est vrai que ça a influencé une bonne partie de ma musique instrumentale directement.
Comment vous voyez aujourd'hui les musiques électroniques ? Qui sont vastes, qui sont devenues très vastes dans, oui. dans des esthétiques totalement différentes.
Oui, ben je pense que ça a toujours été effectivement le propre des musiques électroniques et de l'ordinateur, c'est-à-dire une certaine neutralité avec des pentes, évidemment, certaines choses sont plus faciles, mais il y a donc... justement, moi, ce qui me, à la fois me ravit et me gêne, c'est que le son électronique... n'a pas par lui-même de richesse et surtout pas d'identité. Ce qui est à la fois une force, parce que ça veut dire qu'on peut explorer des territoires nouveaux, mais c'est aussi une faiblesse parce que on a du mal à lui imprimer une identité. Et on a des fois tendance à rattacher l'inconnu au connu. Et finalement, ce monde qui devrait être si nouveau, en définitive, souvent, on le considère, on le met dans des catégories assez simplistes, assez schématiques. Soit on le rattache à l'instrumental et on fait le faux bois en plastique. Moi, je ne trouve pas que ce soit une faute de faire l'intérêt n'est pas de faire des ersatz, mais c'est plutôt de faire se rencontrer le monde instrumental, qui est très typé, très reconnaissable, et puis un monde qui est beaucoup plus continu, continuum de timbres, mais qui peut rencontrer vraiment de très près le monde instrumental comme un tissage de rencontre du troisième type, si on veut, mais qui peut aussi s'en écarter complètement, diverger, partir ailleurs. Et dans cette rencontre, je trouve très intéressante présence-absence, de même une voix, tout d'un coup, une voix, c'est quelque chose qui a un pouvoir émotionnel fort. Et quand on arrive à faire ressembler un son de synthèse à la voix, tout d'un coup, il y a une présence qui apparaît. C'est un phénomène quasi théâtral. Et je dois dire que je m'intéresse à cette espèce de relation théâtrale entre le son vivant, acoustique, et le son de synthèse, que ce soit dans des pièces vocales comme Inharmonique ou L'autre face, ou bien que ce soit dans des pièces instrumentales comme Voilement ou Attracteur étrange. Voilement, par exemple, il y a une véritable mise en scène de la relation entre un soliste qui est là présent et puis une bande qui finalement n'est qu'une espèce d'écho, puis qui petit à petit prend une place de plus en plus grande et qui perturbe le soliste. Enfin, il y a tout un jeu qui, à mon avis, est intéressant dans cette mixité. Et j'avoue que, pour ma part, moi, je préfère précisément ce côté hybride, métissé, mais en même temps, je suis persuadé qu'il y a des choses qu'on peut faire pour l'électronique et le numérique qui sont absolument différentes, et je trouve absolument légitime de l'attitude de quelqu'un comme François Bell qui dit « moi je fais de l'électroacoustique comme une branche séparée, de même que le cinéma est une branche séparée du théâtre ». Je pense que l'analogie n'est pas parfaite, si bien que parce que les sons se mélangent mieux que les images projetées et les hommes. Mais enfin, il y a quand même quelque chose aussi de très juste dans cela.
Extrait de l'autre face de Jean-Claude Risset, interprété par la soprane Irène Jarski.
C'était une préoccupation pour vous, l'image, par exemple, le rapport son-image?
Tout à fait. Mais alors, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Liliane Schwartz, et elle a fait un film à partir de ma pièce Mutation, et on avait décidé d'essayer de travailler ensemble sur cette relation qui est très mystérieuse. Parce qu'il y a des synergies extraordinaires, il y a des pléonasmes très, très ennuyeux, enfin, je veux dire, il ne faut pas se méfier de pas... Mais en même temps, il y a à la fois la possibilité d'avoir des processus parallèles, s'ils ne sont pas trop synchrones, on peut obtenir des choses. Et puis, il y a des synergies tout à fait incompréhensibles, enfin, c'est ce que dit Michel Fano, qui est un musicien et réalisateur télévisuel
et théoricien,
et lui-même, avec la grande expérience qu'il a, il avoue ne pas bien comprendre ce qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose de très fort qui se passe dans cette relation. Et ça m'intrigue énormément. Mais je dois dire que je suis toujours très intéressé par cela, et puis par la danse, par exemple. J'ai quelques ballets qui ont été mis en danse, mais j'ai jamais véritablement travaillé pour la danse directement, mais en même temps, c'est très, ça me fascine beaucoup. Mais il y a des contraintes de temps, évidemment, mais ça m'intéresse énormément. Mais je dois dire que on parle quelquefois d'audiovisuel. La plupart du multimédia, je trouve très très pauvre. Mais je trouve très pauvre aussi la vidéo. J'espère que bientôt on aura des images plus belles. Je dois dire que l'art vidéo, je sais qu'il existe, mais je trouve l'image trop pauvre, de même que je n'aime pas les sons électroniques trop pauvres et donc ou trop stéréotypés. Et je pense que, mais j'ai vu un art, le cinéma underground américain des années 60 a développé une invention extraordinaire, mais il n'a pas vraiment duré, mais j'espère qu'il va y avoir une nouvelle naissance de cette rencontre du visuel et du sonore. Les médias s'y prêtent, mais enfin, pour l'instant, je n'avoue que j'ai pas d'exemple extraordinaire, sinon des ponctuels, même dans des clips. D'ailleurs, il y a des fois, on voit des choses qui jaillissent, et puis on ne sait pas pourquoi, mais pour moi, c'est pas à maîtriser du tout, quoi.
Thank you.
Bruno Le Thor et François Bonnet, France Musique.
Au chapitre de l'actualité, à noter l'édition parisienne de Irnao Festival, créée à Los Angeles par le compositeur Julevic, et c'est ce dernier que nous recevons pour nous parler de cet événement. Le festival Irnao se tiendra à Paris du 2 au 4 décembre au centre Mona Bismarck, 34 avenue de New York. Information sur monabismarck.org. Arthur Levig, bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Dans quelques jours s'ouvre le festival Here Now Music à Paris. Quelle en est la philosophie et comment avez-vous défini la ligne éditoriale que vous impulsez dans cet événement?
Here Now a commencé en 2011 à Los Angeles. Et c'est une idée que j'avais pour diffuser la musique concert qui était en train d'être écrite à Los Angeles et qu'on entendait très rarement. Et je me suis dit, bon, je crois que je peux monter un festival de musique écrite uniquement par les compositeurs de Los Angeles qui sera vraiment puissant. Alors, on a commencé en 2011 et effectivement, ça a grandi chaque année. On a de plus en plus de gens qui adhèrent et on a trouvé des compositeurs vraiment magnifique. Alors l'idée finalement avec Here Now Paris, c'était que il y avait une amie qui était à Los Angeles qui a pris le poste, Bianca Roberts, qui a pris le poste de directrice de Mona Bismarck American Center à Paris.
C'est au centre de Paris, pratiquement en face de la Tour Eiffel.
Exactement, 34 avenue de New York. Bianca m'a demandé, sachant que j'étais quand même lié depuis longtemps à Paris, si je voulais pas faire quelque chose en musique au centre Mona Bismarck. Et j'ai dit bien sûr. On a fait, quand elle est arrivée en 2014, on a fait un concert de Quattro d'Ultima qui a très bien marché. Et puis on a conçu un festival de musique américaine. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit, bah, peut-être on commence avec Los Angeles. Parce qu'il y a une chose qui se passe, et c'était même noté par John Adams, que Los Angeles devient vraiment un centre de la musique contemporaine.
Justement, vous revendiquez la Californie comme une terre de musique contemporaine, mais comment la musique de création vit-elle au regard des musiques d'entertainment, de la musique de film? Parce que c'est vraiment, la Californie, c'est quand même très lié à ce type de musique.
Oui, mais à la fois, on trouve des compositeurs qui sont dans les universités, qui donnent des cours, qui souvent sont les compositeurs qui participent au festival. Et puis, il y a des compositeurs de musique de film qui sont toujours en train d'écrire la musique de concert. On fait gaffe parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui arrivent étant donnés en musique contemporaine et ils arrivent à Los Angeles, ils commencent à écrire pour le cinéma et ils nous envoient des partitions d'il y a 15 ans quand ils étaient. Et on fait gaffe à ça parce qu'on veut des gens qui sont actifs vraiment dans le maintenant en train d'écrire une musique soi-disant de chambre d'aujourd'hui.
esthétique californienne.
En écoutant les musiques qui sont données, proposées au festival, je dirais qu'en fait, c'est très divers. Il y a presque, on pourrait dire, chaque compositeur a son propre écho. Il y a bien sûr des influences. Dans la musique contemporaine, d'une certaine façon, il y a deux lignées, un qui vient de Schoenberg et un autre qui vient de Stravinsky. Et si on mettait ça comme standard en Californie, ça serait plus vers Stravinsky. Mais en même temps, il y a des gens qui pratiquent dans des musiques qui sont très poussées, plus dans la lignée de Schoenberg aussi.
Quels sont les compositeurs joués lors de cette édition parisienne?
Exceptionnellement, il n'y a que des compositeurs de Los Angeles. Mais exceptionnellement, on va jouer aussi des compositeurs très connus qui avaient des liens avec Los Angeles, mais qui sont décédés. Ils vont jouer le quatrième quatuor de Schoenberg, Diotima, les trois pièces de Stravinsky. Pour quatuor, oui. Autrement, on va jouer un quatuor de Esa-Pekka Salonen, qui vit actuellement à Los Angeles et qui était directeur musical de Los Angeles Philharmonic pendant 17 ans. On va jouer un œuvre de Thomas Adès, qui est le compositeur en résidence de Los Angeles Philharmonic. Et puis, sont les gens les plus connus. Mais on joue une femme incroyable qui vit à Los Angeles, qui s'appelle Anne Le Baron. On joue William Kraft, qui est un compositeur émeritus de Los Angeles, et on joue une compositrice chinoise qui vit à Los Angeles, Joan Huang. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas connus en France, et c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup à venir ici avec ces musiques surprenantes des États-Unis. Il y a un jeune compositeur américain de Los Angeles qui s'appelle Adam Schoenberg, il n'a rien à voir avec Arnold, et une autre jeune compositrice qui commence à être connue un peu, qui s'appelle Julia Adolphe, qui avait une commande de la New York Philharmonic. J'ai essayé de trouver des programmes qui étaient bien mélangés. Ça se complémente, ça c'est radicalement différent l'un de l'autre, toutes sortes de choses. Il y aura 3 jours.
Oui, on rappelle, c'est le 2, 3 et 4 décembre à la Fondation Bismarck à Paris.
34 avenue de New York. Et le 2, le Quatuor Diotima, qui joue 4 œuvres. Le Schoenberg Stravinsky, la création de moi et de Julia Adolphe. Ça, ça commence à 19h. Et samedi soir aussi, ça commence à 19h. Ça va être des musiques de chambre variées avec l'aide de Susanna Bartal, qui va jouer le piano, pianiste, qui va jouer sur pas mal de ses compositions. Elle m'a aidé beaucoup à trouver des musiciens. Ça aussi, samedi le 3, c'est à 19h. Et puis dimanche 4, c'est à 16h.
Merci beaucoup. On peut retrouver les informations sur un site, j'imagine.
C'est monabismarck.org. Et on peut aussi retenir, acheter des billets à ce site. Mona Bismarck, c'est MONABISMARCK.org.
Merci beaucoup, Yulavik, et à bientôt.
À bientôt, Bruno.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était Alexandre Bazin, attaché de production Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Alain Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.